la tour Migdia. Nous sommes maintenant devant la maquette de la ville, où sont identifiés l'ensemble des bâtiments qui ont coexisté avec les remparts entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. En plus de l'intérieur de la ville fortifiée, il est nécessaire de passer en revue les éléments essentiels au développement de la ville, tels que les eaux du Grand Canal, les douves et les ravins qui entouraient la ville. À l'intérieur des remparts, on remarque des bâtiments, tels que le clocher appelé El Fadri, le nouvel hôtel de ville, l'église principale, les églises de Saint-Michel, de la Sang et de Saint-Nicolao, les couvents des sœurs Clarisse, des Augustins, des sœurs Capucines, la caserne de la cavalerie, la bourse du commerce. Le plan nous permet de voir le parcours des remparts qui sera visité plus tard et comment se présentaient la muraille, les tours et les portails de la zone urbaine, fortifiés selon la description du tracé effectué par l'ingénieur Juan Battista Antonelli en 1563. À cet endroit du sous-sol, des vestiges archéologiques du système de défense de la ville médiévale ont été mis à jour. Sur la chaussée de la place, on a reproduit le plan de la tour Migdia, qui fut découverte lors des fouilles effectuées en 2013. Là, on peut apprécier l'épaisseur de la muraille et la forme polygonale de la base de la tour. Il y a deux autres éléments, un pilier en forme d'avant-bec édifié au milieu du fossé et un autre mur à l'extrémité sud, qui pouvait être un autre pilier ou une culée de pont-levis, ou, au contraire, les vestiges d'une tour exempte de protection située au portail Migdia et qui permettait de compenser le dénivelé entre l'accès à la ville et le fossé qui l'entourait, celui-ci ayant une profondeur de plus de 3 mètres par rapport au niveau de la ville. Avec les vestiges de la tour Sant'Pere, que nous découvrirons plus tard, c'est sans aucun doute la découverte la plus importante et la plus significative des remparts médiévaux de la ville de Castello. Les vestiges archéologiques enfouis de la tour suscitent de nombreuses interrogations. Comment se présentait le système de défense de la ville? À quoi ressemblaient les portes et les autres accès? Et ce parvis, à quelle époque fut-il important? Comment les gens pénétraient-ils dans la ville? Par quel chemin? Ici, nous nous arrêterons un peu. L'urbanisme de la région s'est organisé en fonction des routes d'accès depuis Boriana ou encore depuis la mer, par le chemin Vel de la Mar, qui permettait d'accéder à la jetée du Grau. Il faut également mentionner le rôle du grand canal d'irrigation qui traverse la région. À cet endroit du panorama visuel et du paysage, le plus remarquable concerne l'interconnexion entre tous les éléments suivants. La tour, le portail, le chemin qui faisait le tour de la muraille, les moulins comme le Roder ou d'autres moulins à huile situés au gré des biefs du canal d'irrigation, les routes, les lignes d'irrigation desservant le verger, avec aussi l'abreuvoir pour le bétail, et enfin le pont qui, ici même, traversait le Grand Canal. Le fossé, appelé également douve, qui entourait les remparts, est un élément très particulier. Dans la partie sud-est où nous nous trouvons, ce fossé a été canalisé et recouvert d'une voûte en pierre au XVIIIe siècle. À l'heure actuelle, il est resté en l'état entre les maisons de la rue Escultor Viciano et celle de la rue Campo Amor. Il poursuit son parcours de manière souterraine en passant par la place Hernán Cortés et la rue Gobernador. En somme, nous avons là une belle perspective sur toute l'histoire de la ville, et ce, sans avoir beaucoup bougé. Commençons donc à nous rapprocher de la place Ballesteria, connue aujourd'hui sous le nom de place Hernán Cortés, transformée en une grande terrasse. Là, nous trouverons sur le sol une plaque portant le numéro 2,